Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, Marc.
C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, c'est un film bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, oh.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, notre actualité cinématographique, elle est ici en public au Théâtre Cantor de l'ENS de Lyon. On se retrouve pour une table ronde exceptionnelle co-organisée par Champ Libre, l'association de cinéma de l'école, par Les Salopettes et par Transistor au terme d'un cycle de projections qui s'est étalé de lundi à aujourd'hui. Dans la volonté d'une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, nous avons donc pu voir Slalom de Charlène Favier avant-hier, le documentaire Inceste, Le dire et l'entendre hier et enfin ce soir, un programme de 5 courts-métrages qui seront l'objet de notre table ronde. Pour en parler ce soir, vous reconnaîtrez les voix du comptoir, Lucie et Nathan. Lucie qui aura cette double casquette Transistor Champ Libre. Casquette Champ Libre qui sera partagée, avec tout ce que cette métaphore est bancale, avec Emma, respo du pôle événementiel de l'association, qui a choisi et programmé ses 5 cours, ainsi qu'avec Adèle pour les salopettes. Enfin, last but certainly not least, nous avons le plaisir d'avoir à cette table Christine Détré, professeure de sociologie ici à l'ENS, spécialiste entre autres des questions de genre et directrice du centre Max Weber. Alors, avant que nous n'abordions les films que nous venons de voir de façon plus détaillée, que nous discutions de leur forme, du point de vue qu'ils choisissent pour aborder cette question des VSS en ce moment plus que jamais au cœur d'une remise en question du cinéma et français en particulier, avant d'élargir aussi nos réflexions, peut-être qu'Emma, tu pourrais nous parler de ces films en eux-mêmes, que nos auditoristes n'auront sans doute pas déjà vus, mais dont les liens se trouveront s'ils sont disponibles en description, les résumer très brièvement et puis surtout nous dire ce qui a motivé tes choix, la cohérence de cette soirée, etc.
Merci. Alors, je vais présenter du coup les 5 courts-métrages qui forment cette programmation en précisant qu'il n'a pas été possible de programmer le film La Prodige, réalisé par un collectif de courts-métrages qui date de 2021 et qui évoque l'avortement forcé d'une jeune fille qui, ses souvenirs traumatiques vont remonter quand elle garde une petite en babysitting et qu'elle noue un lien très fort avec elle, pensant même qu'elle est sa mère. Donc on est assez triste de ne pas avoir pu la programmer, mais bon, c'était à mentionner puisque ça faisait partie de la programmation initiale. Donc pour présenter les 5 courts-métrages, eh bien, je vais commencer par le premier qui s'intitule La Meute et qui a été réalisé par un groupe de 7 personnes de l'école Rubica, qui est de l'école d'animation 3D, de la promotion 2021, dont Louise Cotin, Agathe Moulin et Charline Audreville. Donc ça évoque l'harcèlement de rue en fait, et les hommes sont... transformé en loup dans ce court-métrage. Et c'est un film d'animation, puisque ça vient d'une école d'animation. Le deuxième court-métrage s'intitule Anansi, qui est un court-métrage produit par la FEMIS et réalisé par Oden Guessant Forger, qui date de 2022 et qui évoque le combat pour se faire diagnostiquer de l'endométriose et principalement d'une jeune femme qui, pour se consoler, ou en tout cas pour se rassurer quelque part, imagine qu'elle a Anansi dans le ventre, qui est une légende d'une araignée qui aurait pris une femme dans son sommeil, et elle considère qu'elle a en fait Anansi dans le ventre, ce qui expliquerait ses douleurs à l'estomac. Le troisième court-métrage, c'est Steakhouse, de Chad Spela, qui est un film slovène qui date de 2021, qui est un film d'animation, et qui a obtenu le prix du jury au Festival du film d'animation d'Annecy. Et qui évoque les violences psychologiques au sein du couple, avec une jeune femme qui rentre tard du travail et un homme qui cuit un steak, je ne vous en dis pas plus. Le quatrième film s'intitule La vie sexuelle de Mamie d'Emily Pijar et Urshka Turkish, qui date de 2021. On en a entendu beaucoup parler puisqu'il a obtenu le César du meilleur court-métrage d'animation en 2021 et qui évoque la vie des femmes... dans l'Europe de l'Est des années 30, il me semble, et principalement l'obligation conjugale d'avoir du sexe en fait, avec son mari, qui est un film très fort avec beaucoup d'archives, mélange d'archives et d'animation. Et enfin, le dernier film s'intitule Les Lilas, qui est un film de l'association Médusée, dont on compte les membres Julie Delteil-Tourenc, Nolwenn Simon, Juliette Garin-Wichtatitsky et Josefa Carrero. Josefa Carrero qui est la réalisatrice et la scénariste du film, qui est un... Alors, c'est un film d'association qui évoque le parcours pour comprendre qu'on s'est fait violer et comment la parole collective permet de surmonter ça, pas totalement, mais en tout cas de se sentir comprise et soutenue. Et alors, ces cinq films, on a voulu qu'ils traitent d'une thématique différente, que chacun traite d'une thématique différente, sous un angle différent. Et on avait à cœur, en tout cas, que ce soit des films faits par différentes productions. Par ça, j'entends des films amateurs, comme c'est le cas pour Les Lilas, des films semi-pro, comme les films d'école, c'est le cas d'Anansi, par exemple, et La Meute, et des films professionnels comme Steakhouse et La Vie Sexuelle de Mamie.
Merci beaucoup. Bien, et bien alors pour lancer cette table ronde, je vais commencer par vous poser une question, Christine Détré, à laquelle vous pourrez évidemment chacune et chacun réagir après, hein, comme à la fin de chaque intervention, interréagir entre vous. Donc ma question, elle est un petit peu générale, ça recoupe un petit peu tout ce que vient de dire Emma. Quel regard, en tant que chercheuse en sociologie et sociologue, vous avez porté sur ces films, sur leur portée militante, et puis peut-être aussi sur la valeur sociologique, la fécondité de cette notion de témoignage qu'on retrouve au cœur de la plupart d'entre eux, leur témoignage sans filtre, comme dans Les Lilas, recomposé, comme dans La Vie Sexuelle de Mamie, ou avec de gros guillemets fictionnalisé avec la Meute. Qu'est-ce que, dans votre expérience de chercheuse, quelle valeur on peut apporter à ce témoignage qu'on a ici vu au prisme de l'art, souvent d'ailleurs comme une réponse à des témoignages dans un cadre judiciaire peu entendu?
Merci beaucoup. Donc déjà, merci beaucoup de l'occasion qui m'a été donnée de voir ces films, parce que j'ai trouvé que chacun des films vu isolément déjà, et à un moment vous avez dit, je ne sais plus qui a dit, quand il y a eu une petite panne là, ça va permettre de digérer. Donc déjà un par un, c'était très explicite et ça disait beaucoup de choses. Mais alors en plus l'effet des cinq, on avait vraiment l'impression que le pouvoir sur les corps, il s'adressait de plusieurs endroits, et c'était assez même si on le sait, quoi. Enfin voilà, on peut se dire en sortant de là, aucun des film ne nous apprend rien, on le sait, mais c'est toujours bien de le redire et de le répéter. Et du coup, moi je pense que alors bien évidemment, je peux pas avoir d'analyse cinématographique parce que c'est pas mon métier et je suis juste une spectatrice lambda quand je vois des films. Mais quand vous parlez des témoignages, moi je trouve que ça montre vraiment l'importance justement de la pluridisciplinarité, quoi, en fait, de pouvoir travailler avec des médias qui sont autres que forcément nos outils à nous d'enquête, ou nos outils presque, même pas tant les outils d'enquête que les outils de restitution. Parce que nous, quand on va faire une enquête, les sociologues, les chercheurs en sciences sociales, etc., on va faire un article, bon, super, ça fait une ligne sur le CV, on va faire un livre, donc là, on peut déjà commencer à essayer d'écrire un peu différemment pour que l'utilité des enquêtes soit pas juste une ligne dans le CV ou bien de progresser dans la carrière. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui arrive, je l'ai vu, donc moi je suis plus directrice du Centre Max Weber, hein, c'était juste que descendre. Pardon. Non, c'est pas grave. mais au Centre Max Weber, justement, on a un axe transversal qui a été créé, qui s'appelle TRAM, et qui est pour essayer de réfléchir sur les autres façons. Alors, ce n'est même pas tant de restituer nos recherches, mais que de travailler justement, dès qu'on commence nos recherches, avec l'image, avec le son, avec la bande dessinée. Pour ouvrir un petit peu le champ des gens à qui on parle. Et je pense que, bien évidemment, que sur des sujets comme ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a taraudée et interrogée. Je me suis toujours dit, faire des recherches sur ces sujets-là, pour que ça reste sur une étagère ou de la littérature grise ou même une super revue américaine hyper cotée, je ne vois pas bien, ça n'aurait pas tellement de sens pour moi. Donc, je suis friande de collaborations comme ça, en fait.
Juste pour rebondir sur le témoignage, en tant que tel, ce qui est intéressant dans les films, c'est la parole est quand même assez centrale, mais le travail du son, en général, était vraiment maîtrisé et intéressant parce qu'on a à la fois donc on se rend compte en fait que les musiques sont globalement quasiment toutes des musiques un peu horrifiques. Enfin, il y a quelque chose de très dissonant, de très dur, que ce soit dans Steakhouse, que ce soit dans La vie sexuelle de Mamie, la meute beaucoup. Et il y a que à Nancy où il y a des choses plus légères, mais parce que la liberté, elle, de son corps, même dans la première scène, passe par le relâchement dans la musique. Mais en tout cas, le travail du son en général, et pas seulement de la parole qui se libère, comme on a pu le voir notamment dans le premier film La Meute et le dernier, il y a aussi la place du silence, je trouve, qui était important dans les films. Même des fois, on a des écrans noirs, etc. Et je trouve que c'est, enfin, à plein de niveaux, il y a beaucoup de choses qui passaient par là et par peut-être à la fois le caractère insupportable qu'avait la bande-son à certains moments et qui donc donnait plus de force aux images qui étaient explicites parfois et à d'autres fois beaucoup plus ténues. Enfin, on a quand même un steak qui grille, mais en même temps, il y avait vraiment une tension dans Steakhouse qui, pour le coup, est un film assez typique de l'animation, mais un film métaphorique. Enfin, il y en a. C'est vrai qu'on a tendance à. Ce qui est ça l'avantage aussi du médium, c'est de pouvoir créer des images impossibles où. Enfin, on aurait pu le tourner en prise de vue réelle, mais il y a un autre impact, même dans le design des personnages. Enfin, donc voilà, je trouve ça intéressant. Par rapport à tous les films qu'on a vus, que ça puisse passer par là et pas seulement par l'image.
Moi, j'aimerais prolonger ce que disait Lucie par rapport à l'image, au dessin, à l'animation en général. On constate souvent que la prise de parole au sujet des VSS passe par l'animation, justement parce que ça permet de figurer l'indicible, de permettre un petit peu de traduire un espace mental, un espace personnel. En fait, l'animation, c'est vraiment un médium qui est privilégié pour les sujets qui sont considérés comme sensibles, qui sont considérés comme douloureux. Ça permet de pas passer par la brutalité de la prise de vue réelle, tout en faisant passer un message qui reste très fort et très compréhensible, en fait. On passe par la métaphore, mais on comprend très bien ce qui se joue, quoi. Donc on constate de plus en plus ce genre de film. Et je vous invite, par exemple, à prolonger cette thématique des VSS via les réseaux sociaux où de nombreux artistes, par exemple, font des mini-capsules vidéo de quelques secondes, animées très souvent, sur le sujet du viol, de l'inceste, du harcèlement, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder ça parce que l'animation est le terrain de toutes les prises de parole.
J'aimerais revenir sur l'idée d'espace, en fait, que tu as soulevé très justement, parce que moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans tous ces courts-métrages, particulièrement dans La Meute, c'est la transfiguration de l'espace urbain par l'animation. Il y a vraiment quelque chose qui est dit, surtout quand on confronte avec les lilas, où il y a vraiment des plans très beaux de montagne et de liberté, enfin, un sentiment d'espace très... qui fait du bien après tout ce qu'on a vu. Il y a quelque chose qui est dit sur la métropole, sur l'espace urbain, qui est vraiment vécu comme quelque chose d'oppressant, et il n'y a aucune perspective qui est dégagée dans La Meute. On ne voit pas le ciel. Et même dans Anansi, il y a quelque chose aussi dans l'huis clos du salon de coiffure. Donc ça nous a assez interpellé, cette idée des corps qui sont en fait tout le temps contraints dans leur espace. Voilà.
Moi, je suis vraiment très d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Adèle. Moi, ce qui m'a assez frappé dans La Meute, par exemple, c'est là, pour le coup, dans mon expérience de spectateur unique, mais c'est le réalisme, et en même temps qui est assez expressionniste dans ses choix esthétiques et dans la force qui tire vraiment son parti de la subjectivité de la victime, en fait. C'est-à-dire que c'est un cadre qui est hyper réaliste, vraiment en théorie, et qui va à mesure que sa perception à elle va petit à petit se déliter, en fait, qu'elle va devenir une forme d'accusée presque, alors qu'elle est la victime, dans un commissariat pas éclairé, etc. C'est un style assez vif, alerte, qui rappelle, alors je sais pas si vous avez vu, mais les courts-métrages de l'anthologie Love, Death, Robots sur Netflix, qui permettait justement, par ce choix de l'animation, ces choix esthétiques, ces accélérations, ces tensions, de manifester ce que disait Lucie sur les images impossibles, de vraiment atteindre à l'intériorité des victimes. Je pense à Steakhouse. Moi, c'est vraiment le court-métrage qui m'a mis le plus mal à l'aise quand je l'ai vu, parce qu'il y a cette accélération, cette tension que, prise telle quelle, on sent sans forcément se l'expliquer pour autant. Et ça, c'est, enfin là, c'est vraiment effectivement, on sent la force des choix esthétiques faits par les réalisateurices de ces films, quoi. Et mine de rien, ouais, ça rejoint ce que vous disiez, Christine, sur aussi l'importance de cette pluridisciplinarité, que l'art s'empare de ces thèmes-là, quoi. Un point qui revient souvent aussi dans ces courts-métrages, c'est, et que bah, sur lequel je voulais vous poser une question également, Christine, c'est sur votre expérience de terrain, sur la communauté, cette espèce de communauté masculine qui se forme au fil des courts-métrages comme un antagonisme réel, c'est-à-dire aux femmes qui sont au cœur du film, et qui, par exemple, dans La Meute, prend donc la forme de cette police qui n'est pas une instance rassurante, qui est plutôt montrée avec les mêmes traits pour en finir qu'un agresseur, qui rejoint le fond All Men des Lilas et l'armée de Marie au phallus dressée dans la vie sexuelle de Mamie. Il y a une dénonciation de cette solidarité masculine qui fait que le chasseur n'intervient pas le policier n'intervient pas dans La Meute, ce côté nous il faut pas, etc. Donc le film La vie sexuelle de Mamie, lui, est intéressant parce qu'il montre que le patriarcat va lui vicier jusqu'aux relations entre les femmes, puisque la voisine va dire il faut s'habituer, etc. Donc les Lilas étaient intéressants parce qu'il adressait directement cette question. Y a beaucoup d'hommes qui sont tentés de répondre non, pas tous les hommes, pas tous, etc. Est-ce que vous, dans vos recherches, c'est quelque chose que vous avez rencontré, cette opposition-là, ou pas?
Oui, alors en fait, on peut. La question, on pourrait y répondre de deux façons. C'est d'une part en disant si on réfléchit en termes de genre, de système de genre. Ce que ça démontre, tout à l'heure je parlais dans la première réponse, du pouvoir, le pouvoir et tous les espaces d'où s'exerce le pouvoir, et dans toute la littérature sur le genre, sociologie du genre, etc., les études de genre, on va parler de domination masculine, mais en la prenant en fait comme quelque chose qui dépasse finalement les individus hommes, comme un principe qui soumet chaque individu, qu'il soit homme ou femme, et on voit là finalement le policier, c'est pas tant un homme qu'une incarnation du pouvoir et de la domination masculine. Je me disais même dans le court-métrage sur l'endométriose, alors on ne sait pas qui a diagnostiqué la première fois et qui du coup n'a pas diagnostiqué, mais là il se trouve que la docteure avec qui elle est, c'est une femme. Alors on ne sait pas si les premiers médecins, la première personne qui a fait l'échographie qui a été mal faite était un homme, mais il y a quand même toujours cette histoire de cette idée de pouvoir associé au savoir, c'est très foucaldien quelque part, quoi. Travailler avec les outils du genre et réfléchir en termes de système de genre, alors, ça renvoie aussi aux travaux qui ont été faits sur les masculinités, qui montrent bien que on réfléchit sur une domination masculine qui pèse sur chacun. Après, quand chacun et chacune, quand moi j'ai travaillé, j'avais fait une enquête, une des dernières enquêtes que j'avais faites, c'était sur des femmes nées dans les années 40, et là on avait aussi une systématisation en fait des témoignages, et notamment dans les témoignages recueillis par une journaliste de la radio de l'époque qui s'appelait Ménie Grégoire, dans une émission qui s'appelait Allô Ménie. Et donc vous pouvez trouver, alors elle recueillait les appels des auditrices qui racontaient en fait ce qu'elles vivaient. Et ça montrait effectivement cette conscientisation qui fait que, not all men, but all women, quoi. Enfin, vraiment, il y avait cette idée-là. Et elle racontait donc effectivement la peur le soir d'éteindre la lumière parce qu'à un moment où il n'y a pas de contraception, on ne va pas pouvoir dire non et on va se re-retrouver enceinte. Il y avait vraiment dans ces témoignages là, que Ménie Grégoire avait recueilli, qu'elle a publié sous forme de livre et que moi j'ai recueilli auprès de femmes de cette génération-là, le côté quand même systémique. Quand on dit système de genre, il y a bien le côté, alors c'est pas systématique, mais c'est systémique. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça dépasse le fait de savoir c'est tel ou tel ou tel ou tel, quoi.
D'ailleurs, à ce sujet, ce que j'aime bien dans Anansi, c'est que c'est peut-être dans tous les films qu'on a vus, le seul où il y a un homme un peu positif. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment à quel point c'est intériorisé. Et elle sent que premier rapport, il doit y avoir une pénétration, etc. Elle se sent un peu mal et honteuse, elle n'ose pas lui dire tout de suite que ça ne va pas, parce que si, là on ne sent pas le tabou, en tout cas médical auprès des autres femmes dans le salon, c'est plutôt un lieu de confiance, mais qu'elle, elle peut le vivre vraiment comme, enfin elle n'ose pas le rappeler comme quelque chose qui fait que la relation est en péril, parce qu'elle aussi, c'est un poids réel, et je pense que ça, c'est vraiment un sujet intéressant, tous les tabous médicaux et tous les pressions qu'il y a vis-à-vis de ce que doit faire le corps de la femme, etc. Parce que même si l'homme ne l'impose pas, c'est totalement possible de se mettre cette pression-là soi-même ou d'attendre le fait qu'il puisse attendre ça. Et donc, je trouve que le film le montrait bien. Et par ailleurs, sur la question médicale, c'est vrai qu'on... En fait, on se rend compte que ça va vraiment plus loin, parce que même la médecine en France, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais tous les tests des médicaments sont faits sur des corps d'hommes. C'est le corps type, par exemple. En fait, aucun des produits n'est réellement adapté au corps des femmes. Et voilà. Et puis, si on pense plus intersectionnel, même aux femmes noires, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était un film qui abordait un sujet qui peut paraître vraiment inscrit dans le quotidien, la banalité. En début, on se dit « Ok, c'est un film sur ses maux de ventre. » Mais en fait, ça parle beaucoup plus du système, justement.
Ouais. Sur ce que tu disais, Louis, moi, je trouve que ce qui est super, et bravo à la programmation de Champ Libre, c'est que les différents courts-métrages se répondaient super bien. Notamment, par exemple, dans La Meute, la représentation du coup... des hommes en loup, ça faisait presque écho, je trouve, dans Les Lilas, le moment où elle dit un agresseur, c'est juste un homme et c'est à ça qu'on le reconnaît. Ici, dans La Meute, c'est juste un loup. Et en fait, je trouve que la manière dont l'animation le retranscrit, c'est hyper bien fait, parce qu'il n'y a pas... Le premier moment où on voit le premier loup, on le voit d'abord de dos, donc on se dit que c'est juste un homme. Et puis après, il y a un plan de face, on voit que c'est un loup, mais il n'y a pas d'emphase. C'est-à-dire que ce n'est pas surappuyé par un travelling ou un effet de mise en scène, je ne sais pas quoi. C'est juste comme ça, c'est intégré à une espèce de banalité et de quotidien, et qui est renforcé après par le fait que le flic ensuite va se transformer, qui pareil au niveau de l'animation, je ne me connais pas du tout en animation, mais je trouvais ça hyper... bien fait avec l'animation 3D. Et puis à l'inverse, dans les autres courts-métrages où c'est quelque chose de plus systémique, institutionnel, effectivement, vous parliez de Anansi avec la question de l'invisibilisation de l'endométriose, qui, mine de rien, en vrai, effectivement, tu le disais, et Lucie est très. Est ancrée dans le quotidien d'énormément de femmes, et qui pour autant est pas tant traité que ça au cinéma. Moi, de mémoire, le seul truc qui en parlait, dont j'ai réussi à me rappeler, c'est un épisode de Sex Education. C'est quand même pas le même ton, là j'ai trouvé que c'était hyper juste, très très touchant, et puis pareil après dans Les Lilas, le texte est hyper hyper sincère, une grande sincérité avec le côté documentaire aussi, qui fait que c'était très beau. Et ce moment où elle dit ça, un agresseur, c'est juste un homme, c'est machin, etc. Qui, pareil, est quelque chose de qu'on rabâche tellement et qui est tellement pas intégré, et qui était hyper bien amené, je trouve, avec les images. Et puis dans Steakhouse aussi, avec du coup le personnage de Franck, qui lui aussi limite devient un peu carnassier avec le gros plan sur sa bouche qui est hyper angoissant. Steakhouse, moi j'ai trouvé que c'était une dinguerie, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Jusqu'à finalement à la fin cette esthétisation un peu du cannibalisme qui est symboliquement hyper forte, c'était super.
Par rapport au court-métrage sur l'endométriose, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visibilisé, même dans un contexte scolaire, on n'en parle absolument pas assez, donc voilà, déjà, excellente programmation, bravo. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué en regardant Anansi, c'est la tension qui est portée au corps, mais vraiment dans la délicatesse, la scène du shampoing. L'érotisme. C'était incroyable. On n'avait presque pas besoin qu'ils couchent ensemble après, quoi. Et de fait, il y avait vraiment une vraie délicatesse, les doigts, les cheveux, etc. Et ça repose constamment la question de qu'est-ce qu'on fait avec nos corps, comment est-ce qu'on se place par rapport aux autres, est-ce que l'autre attend forcément ça de notre corps. C'était vraiment excellent. Donc, vraiment, personal favorite. Absolument.
Je suis bien d'accord. Et puis sur ce travail sur le corps, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à travers les courts-métrages. Donc, effectivement, la programmation est quand même excellente. Parce que on retrouve souvent cette idée d'un corps, en fait. Enfin, c'est le seul où le corps soit montré comme, mine de rien, malgré la maladie, lui appartenant, ou tout du moins avec cette sensualité-là, ce désir-là, vraiment, alors que, mettons, par exemple, au début du dernier court-métrage, Lilila, le corps est vraiment montré comme fragmenté, plus la voix qui dit qu'elle a ce sentiment d'en être dépossédée. Et c'est une dépossession qu'on va retrouver dans les cinq courts-métrages, notamment aussi avec cette esthétique de la lacune qui va être développée dans La vie sexuelle de mamie, donc avec cette ouverture sur un écran noir, sur lequel vient une parole, et enfin des photographies, mais qui sont toujours découpés. Et là, ce qui va être intéressant par rapport à ce qu'on évoquait sur le témoignage, ce sera comment l'animation va permettre de pallier le manque, dépasser la seule preuve par l'image. Et la simplicité de ce film, enfin du trait mouvant, signale peut-être aussi une détresse. En tout cas, le tout est abordé sous l'angle franc de la métaphore, ce que tu disais, Lucie, à propos ces images impossibles là où Emma tu parlais de figurer l'indicible. Et alors à ce sujet là moi ce que je trouvais intéressant et sur lequel je voulais revenir, si c'était un choix de ta part ou non, Emma, c'était la place faite au mythe et au conte dans les films, parce que la meute peut se lire comme une espèce de réécriture du petit chaperon rouge, où effectivement donc le petit chaperon rouge est ici souillé, les loups sont multipliés, le chasseur en tant qu'homme est finalement un loup lui-même, qui peut faire écho à une actualité des relectures féministes du petit chaperon rouge. J'entendais l'autre jour à la radio quelqu'un qui parlait des travaux d'Yvonne Verdier, qui est une ethnologue qui s'intéresse à la transmission orale du conte, où la place au corps féminin est plus importante, même de façon hyper actuelle, le discours récent donc de Judith Godrèche qui parlait du petit chaperon rouge dans son discours au César. Donc on a ce conte-là. Dans Anansi, on a encore plus franchement une confrontation entre deux ontologies, de façon de voir le monde, donc avec le mythe de l'araignée qui est mis en parallèle franc avec une IRM pelvienne, pour reprendre les mots du court-métrage. Est-ce que ce choix du mythe, c'était volontaire ? Et qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, à vrai dire, non, pas du tout. Et je trouve ça hyper intéressant que tu soulignes ça, parce qu'en effet, il y a vraiment quelque chose de lien, en fait, avec le conte, le mythe, sur plusieurs plans, parce que, par exemple, dans le cas d'Anansi, il y a cette volonté de se rassurer et de mettre une image, s'approprier sa douleur aussi quelque part, en lien avec sa culture. Et si on confronte par exemple avec le petit chapeau rouge, comme tu disais, on est tout à fait pour la meute, là on est plus sur des histoires en fait qui restent dans la société et qui sont des histoires qui transmettent malgré tout cette idée de système, comme vous disiez, de domination, de pouvoir. Et c'est intéressant de voir comment en effet on lit vécu, VSS et les contes, et comment la personne qui fait le film, en tout cas le personnage principal, avec quel type de mythe s'est associé, un mythe de domination ou un mythe de réappropriation, mettre des images sur quelque chose qu'on sent mais dont on n'a pas le terme, par exemple pour l'endométriose dans Anansi. Donc en fait non, c'était pas un choix, mais c'est très intéressant à relever et ouais, à prolonger peut-être dans d'autres programmations, mais c'est... Oui, non.
Peut-être que Christine Frey voulait rajouter quelque chose, vous donner un...
Alors moi, je voulais rajouter quelque chose sur l'endométriose, donc ça n'a rien à voir avec le conte. Mais en vous écoutant, il m'est revenu qu'il y a quelques années, j'avais encadré un mémoire d'une masterante du master des sciences sociales sur l'endométriose. Et je me disais à la fin du court-métrage où elle est, on l'a diagnostiquée, et puis il y a cette musique, et puis elle ouvre les bras, etc. Et en fait, c'est pas du tout fini, en fait, son calvaire, parce que ce que montrait l'étudiante là. Dans l'enquête, donc vraiment classique, témoignage, entretien, etc., elle montrait comment... Donc là, on voit des appropriations de la parole, enfin des revendications de la parole. Et elle montrait comment, même quand elles sont diagnostiquées, les femmes en question n'ont pas les moyens d'être soignées parce que la médecine est hyper en retard. Et comment pour l'endométriose, on a une sorte de... Enfin, ce qui s'est passé, par exemple, pour le sida, où les médecins, les docteurs n'avaient pas les moyens. Et on a eu l'inversion du rapport de pouvoir, où ce sont les patients qui s'étaient organisés. Et là, elle documentait, donc elle avait rencontré un groupe de femmes hein, et de jeunes femmes. Et tout à l'heure, vous parlez d'intersectionnalité, et vous allez voir comment ça revient, qui, du coup... Par des tests, etc., des expérimentations donc sur leur corps, s'était aperçu que des hormones qu'on prescrit aux personnes trans dans leur transition soulageaient les douleurs. Donc ce qui se passait, c'est qu'elles achetaient, mais elles ne peuvent pas, on ne peut pas leur prescrire, parce que les médecins, ce n'est pas dans les protocoles autorisés et légitimes du traitement de l'endométriose. Donc elles achetaient aux personnes trans, qui elles-mêmes sont souvent en situation de précarité, donc ont besoin d'argent, des doses pour s'auto-administrer. Et donc c'était vraiment intéressant son mémoire, parce qu'on voyait... voilà, comment dans un trou de la médecine où on ne s'occupe pas vraiment, enfin, c'est des femmes, c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, enfin, voilà, tous ces trucs, c'est cette lourdeur, hein, vous le disiez, tout ce qu'on incorpore, et tu vas serrer les dents, tu vas prendre un aspirine et ça ira mieux. Et comment ça fait une série de domination en cascade, parce que finalement, elles vont acheter, parce qu'elles ne sont pas précaires, elles sont blanches, elles sont de milieu favorisé, donc elles vont acheter des doses à des personnes précaires. Voilà, donc c'était, je voulais juste rajouter ça comme petit écho sociologique, en plus qui avait été fait par une étudiante d'ici, en fait.
Oui, tout à fait, c'est très intéressant, et puis ça recoupe aussi peut-être les travaux de Lucille Ruot sur le
lac. Oui, j'y pensais, je pensais à elle tout à l'heure, avec le court-métrage de la fin, avec le groupe, quoi, l'amitié, et comment ça porte la personne.
Et puis là, dans le film, on sent aussi, quand elle liste tous les trucs qu'on lui a fait faire, les frottis, les prélèvements, les machins, l'invasivité aussi, de la pratique médicale, et aussi c'est difficile d'aller voir un gynécologue la première fois. Est-ce que c'est plus difficile si c'est un homme ou une femme? Ça dépend de sensibilité, mais en tout cas, vraiment, cet aspect invasif est très réel, et l'a longtemps été beaucoup plus aussi. Je pense que voilà, on y allait souvent avec moins de pincettes avant. Et je voulais juste redire un mot sur le conte. Ce qui est intéressant avec La Meute notamment, c'est que si on pense à l'origine du conte, ça vient de... C'est une mise en garde pour les petites filles, en fait, les contes. Hein. C'est toujours ça, en général, initialement. Et en fait, à la fin, le flic, il lui fait une morale de conte. Il lui explique ce qu'elle doit faire la prochaine fois, il ne faut pas sortir la nuit, et en fait, il y aura toujours des loups. Ma grande, c'est comme ça que ça marche. Et c'est exactement une morale de type conte. Et par rapport à l'animation, la vie sexuelle de mamie, l'avantage du cartoon, c'est que ça montre la violence des choses, mais ça montre des trucs atroces. Enfin, tout ce qu'on voit dans ce court-métrage-là, des vagins qui explosent, des enfants... Enfin, c'est hyper, hyper graphique et viscéral. C'est aussi... la vertu de l'animation, qui est aussi d'alléger ça. Donc, je pense que c'était un des plus intéressants là-dessus, parce qu'il y avait une animation enfantine. On a l'impression de voir des trois petits cochons, des petites maisons mignonnes. Il y a une gamine qui a dessiné ça sur une feuille, mais c'est d'une violence énorme, quoi. Donc là-dessus, ça faisait un peu pour moi le lien avec l'enfance.
Ouais, je suis complètement d'accord sur l'animation de la vie sexuelle de mamie. Et en plus, tu parlais tout à l'heure des capsules vidéo sur les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que c'est un style là, tu disais cartoon, une BD qui permet un truc avec le décalage entre les dessins très naïfs et la violence et la crudité de certaines images, et aussi la poésie qui permet aussi la poésie de certaines. Et aussi ouvrir du coup par rapport à ce que tu disais sur. Il y a plein de BD aussi qui sont hyper intéressantes sur la question des VSS.
Mais donner les noms.
Ou même dans. Sur les réseaux sociaux, je pense à La Nuit Remue Paris là, comme ça. Mais même après, édité, il y en a plein. Enfin, c'est assez riche en vrai, c'est vraiment cool. Et aussi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que non seulement il y a des représentations de différents thèmes dans les courts-métrages, encore une fois, bravo Jean Libre, et il y a aussi une représentation assez variée des différentes parades, je trouve, trouvées, et moyens de défense qui sont tous très divers et à chaque fois hyper bien amenés. Dans La Meute, il y a un constat d'échec assez triste. Hein, tu parlais de la morale qui est terrible. Mais dans Les Lilas, il y a ce message hyper fort sur l'expérience militante et la sororité, le groupe. Et puis après, effectivement, dans Anansi, tout ce travail intérieur d'appropriation, de compréhension, et qui est aussi hyper bien représenté. Donc voilà.
C'était pour revenir sur ce que vous avez dit sur prendre aspirine et ça va passer. C'est un discours qu'on entend encore beaucoup trop, notamment en EPS. Et en fait, il y avait quelque chose qui était assez marquant, je trouve, particulièrement dans la vie sexuelle de mamie, c'était à quel point la douleur est inscrite dans le corps féminin. Enfin, ses seins et donc à son sexe et on dirait des plaies en fait. Et c'est très 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 bien vu. Et donc dans Anansi aussi, le fait qu'elle porte cette douleur avec elle tout le temps et qu'on voit qu'elle a des mécanismes d'évitement, enfin sa petite bouteille d'eau qu'elle a tout le temps avec elle, comme si ça allait peut-être faire quelque chose, et le fait que tout le monde sait au final, mais que c'est une douleur qui est acceptée, intériorisée, enfin pas acceptée non, du tout, pardon, intériorisée et qu'on fait avec. Toutes ces micro-stratégies-là au quotidien, c'est hyper bien de visibiliser ça, quoi. Donc voilà.
Oui, complètement. Et à ce sujet d'ailleurs, et pour revenir un peu sur ce que tu disais plus tôt sur les espaces qui sont créés, donc on a parlé du mythe et tout, mais ce qui est aussi intéressant et qui peut rejoindre aussi votre pratique de sociologue, c'est que d'autres, d'ailleurs en combinant parfois et le mythe et tout, mais c'est l'aspect documentaire de certains de ces courts-métrages qui est vraiment d'un souhait d'aller au contact du réel. Et là, donc on a ça dans un, d'ailleurs d'une façon de documentaire quasiment sonore, avec, si on pense à la vie sexuelle de mamie, avec en fait, on a l'impression au début que c'est une seule personne, et puis à la fin on a ce carton qui indique que son témoignage anonyme, qui reconstitue une voix, une forme d'esprit du temps en fait, qui est marquée par, c'est imparfait de la narration, je sais pas si c'est le cas en slovène, mais enfin c'est le cas dans les sous-titres en français, et qui fait donc cette boucle continuelle de All Women dont vous parliez. Et donc là il va y avoir donc cette rupture générationnelle claire de marquer dans la seule réalisation de ce film, donc voilà pour le documentaire sonore. Mais on a aussi, ça c'est ce qui fait que Anansi est également mon préféré de la sélection ce soir, donc ce choix d'esthétique du documentaire avec la caméra qui circule entre les personnages à un moment avant qu'il y en ait une vraiment qui se distingue, qui va former cet espace communautaire féminin rassurant en fait, ici, parce qu'effectivement on a le huis clos du salon, mais en même temps c'est quand même des paroles qui vont dans tous les sens, qui fusent et qui forment finalement de ce salon quand même une espèce de safe space. Et les paroles voilà, vont se mélanger comme une voix générale. Il y a quelque chose de beau et de solaire finalement là-dedans. Et je ne sais pas si ce retour aussi au réel parallèle avec ce dont on parlait tantôt est quelque chose sur lequel vous voudriez revenir aussi autour de cette table, je ne sais pas.
Il y a à la fois les témoignages là dans la vie sexuelle de mamie, et puis il y a les photos à la fin.
Oui, exactement. Enfin,
le regard, yeux dans les yeux. Alors même si c'est bien précisé qu'elles sont pas forcément en rapport avec les témoignages, mais là on se sent interpellé, et ça m'a fait penser à un film que j'avais vu l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors malheureusement, bien évidemment, je vais pas retrouver le nom, mais c'était peut-être ça va vous dire quelque chose. C'était sur la triste destinée des femmes au foyer. Enfin, c'était quelque chose. Enfin, je le dis dans mes mots. Et ça avait été fait à partir de journaux intimes, de plusieurs journaux intimes que la personne avait trouvé, enfin la réalisatrice avait trouvé, alors je ne sais plus, c'était à l'association pour l'autobiographie, qui est pas loin, hein, qui est à Ambérieu, et j'ai toujours ce projet d'emmener les gens du séminaire, on va le faire. Et c'était fait avec ça, et avec des films Super 8 familiaux en fait. Et la réalisatrice avait, il y avait deux choses qui m'avaient sidérée dans ce film. C'est à la fois, du coup, le fait que de la même façon, ça racontait une seule histoire, mais composée de plein de témoignages et de plein de films différents. Et c'était la même histoire pour toutes les femmes, quoi. Il y avait quelque chose de très fort. Et elle disait quelque chose qui m'avait vraiment frappée. Ça avait été la difficulté qu'elle avait eue de trouver des films familiaux qui montrent les femmes dans les activités quotidiennes. Elle disait, parce que finalement, une femme, quand elle fait la vaisselle, on va pas la filmer, quoi. On va filmer l'homme quand il est en train de, monter la cabane, faire quelque chose d'extraordinaire, mais que finalement les femmes étaient très peu dans les films quotidiens, les films familiaux, les films Super 8, parce que elles sont invisibilisées en fait, elles sont fondues dans le décor en fait. Donc voilà, c'était juste pour l'aspect d'accumulation de ces témoignages qui racontent une destinée. Ça m'avait évoqué ce film-là.
Merci.
Peut-être si le public.
Oui, effectivement. Si y a des questions du public.
Moi, je peux juste rajouter encore un dernier
truc.
Oui,
bien sûr.
J'ai un micro, après je ne lâche plus. Non, c'est pas vrai. Juste, vous avez parlé là, du livre de Lucille Ruault sur le MLAC, donc qui est un livre super. Et d'ailleurs, quand on est à l'ENS, on a accès à tous les livres de ENS Édition gratuitement sur le site. Tout est disponible. Voilà, parfois, ça ne se sait pas. Et donc, le livre de Lucille Ruault, il est publié à ENS Édition, donc vous pouvez aller le lire. Et là, un des derniers livres que j'ai lu, c'est celui de Alice Rebaud sur l'amitié, en fait. Et je me suis dit, en voyant la fin du dernier court-métrage, je me suis dit, moi, ma génération, ça a vraiment été... ça a vraiment été... L'amitié, c'est un temps de la vie. Et puis, une fois qu'on est en couple, la priorité, c'est le couple, c'est l'amour, c'est la conjugalité, c'est la famille. Et quand je fais un retour en arrière, je me dis, mais quels amis au féminin j'ai gardé de mon temps étudiant, etc. Donc, mise en garde. Gardez vos copines, voilà. Gardez vos amis. Mais ça a l'air anecdotique, mais c'est hyper important, en fait. Parce que, voilà, ce qu'elle montre à la fin de cette force du groupe, où du coup, on n'est pas... on parle de soi. Enfin, quand elle rit, je trouvais ça hyper émouvant. Alors, on pouvait penser que c'était un peu facile. Bah voilà, elles sont en train de se balader, qu'on les voit, elles rient. Mais en fait, c'est hyper profond, ce qui se passe dans ces images-là. Et il ne faut juste pas que ça soit associé à une certaine période de la vie.
Oui, je ne sais pas qui...
Je juste répète la question pour ton émission.
Parce qu'effectivement...
La question était comment parler... Mais par rapport au fait qu'il y a des paroles contredites dans le film, des paroles difficiles, mais qu'il y a des personnes qui essaient de témoigner et que ça ne marche pas, ou alors des témoignages qui font porter la voix, voilà la question de effectivement, comment parler, est-ce que c'est si simple, est-ce qu'il y a des choses à faire?
Peut-être Adèle ou...
Oui, alors le pôle safe est là, je parle du contexte de cette école, vraiment il y a une écoute, il y a des associations qui sont là pour vous, les Salopettes notamment, mais aussi Arc-en-Ciel qui fait un super boulot. Et après, vraiment, s'entourer et pas forcément parler à la première personne que vous croisez à ce moment-là. Enfin, peut-être se recentrer un tout petit peu, si c'est possible dans ce moment-là, évidemment, et se dire, OK, à qui je sens que j'ai besoin de le dire? Est-ce que c'est ma maman, par exemple? J'appelle ma maman et je lui parle, je vois si ça vient... Si ça ne vient pas dans ces cas-là, eh bien, c'est pas grave. J'ai au moins parlé à ma maman dans ce moment-là et j'ai entendu une voix et j'étais pas toute seule ou tout seul. Donc, vraiment, le fait de parler, même si c'est pas de ça sur le moment, c'est hyper important de recréer un contact qui soit sain après ou dans le moment où on se sent le plus vulnérable, notamment juste après. Et après, vraiment, c'est une question de temps. On a vu avec tous les mouvements MeToo, Balance ton porc, à quel point ça s'inscrit sur la durée, à quel point on peut parler, mais 10 ans après. Et enfin, il y a prescription. Non, il n'y a pas prescription. Ça s'est passé, donc ça doit être mis devant la justice. Et je pense à Anatomie d'une chute, notamment, où on voit à quel point le système judiciaire peut être très fermé sur la parole de la femme. Mais on peut avoir confiance que les choses vont évoluer, notamment avec ce genre de questions, en fait. À partir du moment où on se demande comment parler, ça veut dire qu'on est en chemin, quoi. J'espère avoir répondu un peu.
Merci.
Donc, ma question, c'était pour justement prolonger un peu la question d'avant sur la prise de parole. Et c'était plutôt d'un point de vue sociologique que je m'intéressais à ça, et sur le décalage entre parfois une prise de parole assez forte et le fait qu'il y a des sujets dont on finit par beaucoup parler, qui sont très médiatisés, et le fait que dans les sphères de pouvoir et les sphères décisionnelles, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Et donc je me demandais quelles étaient les voies qui permettaient à la parole de finir par devenir un petit peu action et changement concret, globalement.
Alors c'est compliqué à répondre de façon globale et générale sur les études sociologiques. Voilà, par exemple l'enquête dont je parlais, donc elle s'appelle toujours Victoria Atem, l'étudiante qui avait travaillé sur le sujet de l'endométriose. Enfin, voilà, c'est pour ça que je mettais en rapport avec ce qui s'est passé au moment du sida, en fait, qui a été une des premières fois où les rapports de force, effectivement, savoir égale médecin égale savoir et patient. Et même dans le terme patient, hein, on a bien l'idée de supporter, hein, attendre, voilà, l'administration d'un. Ça a été un des premiers moments où effectivement la médecine ne suffisait pas et où il y a eu cette prise en charge par les concernés eux-mêmes et elles-mêmes. Enfin, cette idée de prise en charge par les concernés eux-mêmes et elles-mêmes, en fait. Donc, des enquêtes générales, j'aurais du mal. Voilà, en santé, ça a été documenté sur ces moments-là, par exemple. Voilà, le moment où, autour des mouvements intersexes aussi, qui ont montré comment les personnes intersexuées, c'est par la prise de parole des concernés eux-mêmes et elles-mêmes où ça a pu faire bouger les représentations. Alors, ça fait d'abord bouger les représentations. Les lois, après, pour qu'elles bougent, faut encore un temps. Mais voilà, moi, je suis optimiste, en fait. J'ai plutôt un tempérament à être... Je pense, sinon, je ne ferais pas de sociologie. Donc voilà, ça, c'est par étapes, mais on a des études comme ça, secteur par secteur, en fait. Mais vous avez raison, c'est du temps. Enfin, tout à l'heure, sur l'idée des violences sexuelles, moi, je pensais à toutes celles qui ont témoigné contre Patrick Poivre d'Arvor, quoi. Et avec l'impression qu'il n'y a rien, en fait. Et même Judith Godrèche, le fameux discours des Césars, quand elle dit « mais je ne vous entends pas ». Voilà, je ne vous entends pas. Et je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie, mais après, bon, voilà, tout le monde dit « oh, bravo ». Enfin, il n'y avait rien qui se passait, en fait. Donc, voilà, il faut du temps. Enfin, faut pas qu'il n'y en ait qu'une qui parle, en fait.
D'ailleurs, pour revenir sur la cérémonie des Césars, et cette chose de « il faut du temps » et que plusieurs personnes s'y mettent pour avoir un poids aussi, parce que quand on n'est pas en domination, il faut créer le poids face au poids dominant. Ça me fait penser à Adèle Haenel qui quitte la cérémonie des Césars. Il y avait beaucoup de parallèles à ce niveau-là, que justement Adèle Haenel avait commencé quelque chose en quittant la cérémonie des Césars. Et voilà, c'était le parallèle entre les deux les choses s'instaurent avec la durée et la prise de parole, la multiplication en fait de la prise de parole.
En plus, Adèle Haenel, quand elle est partie, après, alors je ne sais plus si c'était après ou avant, mais il y avait eu l'enquête de Mediapart déjà sur ce qui lui était arrivé. Et j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, je me disais, mais c'est fou le temps que ça a mis, c'est comme si ça avait été enterré. Et là, ça ressort avec Judith Godrèche. Mais Adèle Haenel, déjà à ce moment-là, il y avait eu ce qu'elle avait dit sur un tournage avec le réalisateur, etc. Donc, c'est comme s'il y avait eu le Me Too Cinéma qui avait essayé, il a fait pchit, et ça revient. Mais oui, il faut du temps.
C'est par petite vague aussi, j'ai l'impression qu'il y a des moments qui sont favorisés, qui sont favorables à ça. Mais c'est un mouvement qu'il faut sans cesse réinjecter, relancer, parce qu'on ne perce pas la domination d'un mouvement. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a des phases qui sont privilégiées quand même. Oui.
Et puis, la parole c'est bien, mais derrière le discours de Judith Godrèche et ce qu'elle essaie de faire en ce moment, il y a aussi le truc de, vous m'avez entendu, prouvez-le. Enfin, il y a un truc de, je ne suis pas dupe par rapport au fait que j'ai cette visibilité, je suis invitée sur les plateaux, mais derrière, qu'est-ce qui change? Enfin, il y a un peu ça qui est mis en question parce qu'on a tendance à, je me suis dit, Adèle Haenel, ça a été beaucoup diffusé, etc., sur les réseaux sociaux, mais c'était que de la visibilité. Dans le fond, la visibilité hyper important, mais des fois ça ne suffit pas, il faut une impulsion politique, et là elle est allée au Sénat. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de palier supérieur de je suis actrice, je suis déjà visible, je suis encore visible presque comme une actrice quand je viens sur les plateaux et pas comme, pas comme une femme, pas comme une réalisatrice, etc. Et donc de faire changer cette balance-là et de réfléchir à comment impulser les actes plus précisément, pas rester une image en fait.
Juste avant la clôture de cette belle table ronde, venez manifester vendredi avec les salopettes pour la journée des droits de la femme. Il y aura un atelier pancarte. Venez nombreuses et nombreux, évidemment.
Merci beaucoup Adèle. Voilà, je voulais vous demander l'actualité de vos divers événements. Donc pour les salopettes, venez le 8 mars. Peut-être Emma pour Champ Libre. Emma, Lucie, quels sont les prochains rendez-vous Champ Libre?
Alors avant de parler des rendez-vous, je suis désolée, je voulais féliciter la programmation de leur travail pour la diffusion, la projection de ces courts-métrages. Faire un programme de courts-métrages, c'est très très compliqué. C'est énormément de recherches, c'est des gens qui ne répondent pas toujours parce que, comme vous le savez certainement, les courts-métrages, ce n'est pas un commerce comme celui du film long. Donc c'est très dur de contacter les personnes concernées, c'est énormément de paperasse, c'est très long. Et bravo aussi aux personnes qui sont occupées de la projection, du montage. Regarder des courts-métrages, c'est absolument formidable, c'est génial, mais c'est un vrai travail qui n'est pas toujours mis en lumière, que ce soit dans la projection comme dans la réalisation, la production. Donc voilà, je voulais féliciter les équipes de Champ Libre et cette programmation qui s'est faite à plusieurs avant tout.
Voilà.
Merci pour les fleurs et juste pour l'actu Champ Libre. Alors, le 13 mars, je ne sais pas quel jour c'est la semaine prochaine. Mercredi prochain, il y a la projection de clôture du cycle voyeurisme sur la vie des autres, qui est un voyeurisme auditif et plutôt positif. Non, mais je vous assure, beaucoup plus. Donc voilà, venez nombreux.
Merci. Est-ce que Christine Destré, vous voulez signaler une actualité prochaine? Bon, eh bien très bien. On vous retrouve à l'ENS.
Voilà, moi je suis toujours là depuis 20 ans et encore pour un certain nombre d'années. Voilà.
Eh bien, très bien. Bon, merci beaucoup Christine Destré. Merci Adèle pour les salopettes. Merci Emma, Lucie pour Chanlier. Merci Lucie Nathan pour Transistor. Pour toute cette table ronde, merci à vous, le public, d'avoir assisté à cette projection et à ce débat. Donc ce premier hors-série du comptoir du cinéma, ces films, vous pourrez les retrouver dans la mesure de leur disponibilité, certains sur YouTube, d'autres sur Arte, dans la description de l'émission, sur toutes vos plateformes de podcast, puis bien sûr sur transistor.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisque cette émission sortira le 13 mars, ce sera donc le 20, pour Madame de Sévigné. Et puis notre prochain hors-série, nous pouvons d'ores et déjà l'annoncer, il aura lieu le mercredi 10 avril dans le cadre de la journée de la radio. Il sera consacré au sport et au cinéma. Plus d'informations très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et à bientôt. Et vive le cinéma !